Moi, j'ai commencé la cuisine en me disant qu'à 30 ans, j'aurai mon restaurant.
En fait, il faut partager des valeurs et tout commence là-bas. Parce que les valeurs dans la cuisine, c'est tellement important. Nos manières de traiter les gens, les produits, soi-même. Et si on partage ça, on peut créer des choses incroyables. Mais s'il y a une tension dans ça, tu ne vas pas aller très loin.
Finalement, respecter l'humain, respecter les gens avec lesquels on travaille, c'est aussi, en deuxième temps sur la chaîne, respecter les producteurs avec lesquels on travaille.
Aujourd'hui, moi, dans mon restaurant, j'essaye de faire au maximum. Pour ça, il faut qu'on puisse recruter plus, déjà. Donc, on a mis en place 3 jours de repos. Donc, le restaurant est fermé 2 jours par semaine et chacun a 1 jour de repos en plus.
Il y a aussi comment se comportent les clients. On a quand même régulièrement des gens qui ne se comportent pas bien, qui ne parlent pas forcément correctement, etc. Il y a aussi ça, je trouve que le restaurant de demain, ça passe aussi par la clientèle, quoi.
On a souvent des retours des gens de la salle qui disent qu'ils ont eu des propos sexistes ou des attouchements par leur chef de rang.
On se dit que dans nos métiers, on a une responsabilité, parfois, d'avoir encensé des personnes qui n'ont pas des attitudes extrêmement positives envers leur brigade.
Quand je travaille dans notre restaurant, que je terminais à minuit et qu'on me disait « oui, mais t'es passionnée ». Oui, mais je suis fatiguée.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Chers auditeurs et auditrices, en ce début d'année, place à l'espoir, au renouveau, place à l'imaginaire d'un futur désirable. Commençons 2023 par imaginer ce à quoi ressemble le resto de demain. Resto de demain, l'expression est volontairement polysémique. Par resto de demain, il faut entendre le resto tel qu'il se dessine déjà, avec un secteur professionnel en constante mue ces dernières années, mais aussi le resto idéalisé, le resto rêvé, celui qui n'existe pas encore, mais représente déjà un horizon ambitieux pour les gens du métier, comme celles et ceux qui viennent s'attabler. Se projeter dans le resto de demain nécessite forcément de commencer par ce qui ne va pas dans le resto d'aujourd'hui. Stress, horaires décalés, précarité, violence en cuisine. Dans le milieu de la restauration, les conditions de travail sont connues pour être difficiles. Au lendemain de la pandémie, à l'heure où les restaurants réouvraient, un certain nombre de travailleurs et travailleuses du secteur ont rendu le tablier pour de bon. Faire à manger pour les autres en courbant les chines, ne pas compter ses heures, avoir le dos en compote et gagner des cacahuètes, la profession semble avoir largement éprouvé ses limites. Ancienne voie de garage devenue métier passion cette dernière décennie, la restauration a tant malmené ses forces vives qu'elle se retrouve désormais au pied du mur. La pénurie de main-d'œuvre est criante. Alors, que faire pour séduire à nouveau et susciter des vocations? C'est le défi qui attend aujourd'hui tout un secteur sommé de faire son examen de conscience. Avec, en filigrane donc, cette question: à quoi doit ressembler le resto de demain? Cela fait maintenant plusieurs semaines que l'on en parle à travers cette série Bouffon. Il y a encore du pain sur la planche pour faire du restaurant de demain un endroit à nouveau désirable pour les travailleurs et travailleuses du secteur. On l'a vu avec nos invités des 3 premiers épisodes, le resto de demain, c'est le resto dans lequel toute l'équipe est valorisée et pas seulement le chef. Le resto de demain, c'est aussi celui qui aura mis fin aux violences sexistes et sexuelles du secteur. Le resto de demain, c'est celui qui respecte le vivant sous toutes ses facettes, la qualité des denrées cuisinées comme le bien-être au travail du personnel. Et enfin, le resto de demain, c'est aussi celui qui peut compter sur une clientèle respectueuse. Voilà, en quelques phrases jetées, le resto idéal en tant qu'objectif souhaitable. Un resto qui, par certains aspects, existe déjà, ci et là. Au moment où nous enregistrons cette série, le restaurant Noma, à Copenhague, 3 étoiles et sacré meilleur restaurant du monde, a annoncé fermer ses portes fin 2024, afin de se consacrer à de nouveaux projets d'expérimentation culinaire éloignés du monde étoilé de la cuisine. Ce modèle de haute gastronomie ne marche tout simplement pas, a expliqué le chef René Redzepi. Il n'est souhaitable ni financièrement, ni émotionnellement, ni en tant qu'employeur, ni en tant qu'être humain, poursuit-il. En effet, si le Noma a pu fonctionner jusqu'à présent, c'est notamment parce que son chef a fait travailler des stagiaires gratuitement. Cette annonce a largement été commentée dans le secteur, entre les voix qui ont trouvé cette décision radicale et respectable et d'autres qui grincent des dents et font remarquer que René Redzepi a beau jeu aujourd'hui de se retirer en grand prince après avoir largement utilisé la force de travail des autres comme marchepied. Reste que la fermeture du Noma nourrit une fois de plus la discussion sur le coût humain qu'implique la grande cuisine. Cette actualité n'est pas sans rappeler ce qu'avait fait le chef Alain Sandereins, qui avait renoncé à ses 3 étoiles en 2005 pour s'affranchir de la pression continue induite par le standing de la grande gastronomie et revenir à un rythme plus serein dans un restaurant classique. Lorsqu'on discute avec des personnes travaillant dans le secteur de la restauration, on entend souvent que l'un des enjeux principaux est de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Cet équilibre se mesure à différentes choses. Le nombre d'heures travaillées, bien sûr, mais aussi le rythme. Car travailler en horaire décalé empêche souvent d'avoir du temps libre en même temps que ses proches, en même temps que le reste de la société. Il y a également la question du travail en coupure ou en continu. Car lorsqu'on travaille dans un restaurant proposant 2 services, on se voit souvent imposer une pause dans le creux de la journée. Par exemple, entre 15h et 18h. Une pause non rémunérée, autrement dit un moment off, mais qu'on a parfois du mal à réellement percevoir comme du temps libre parce que, à part faire une sieste sur la banquette du resto ou passer faire une course, on n'a pas forcément beaucoup de latitude pour en profiter avant de reprendre le service du soir. Pour en discuter, j'ai tendu le micro à Rebecca Beaufour, chef du restaurant Dante, dans le 10e arrondissement, à Paris. Rebecca est aujourd'hui sa propre boss. Mais avant l'ouverture de son restaurant, elle a connu différentes maisons, différents rythmes. Elle raconte.
Alors aujourd'hui, c'est différent parce que j'ai créé mon entreprise. Donc, entre guillemets, je travaille pour moi. Donc, on ne le fait pas de la même façon. Mais quand je travaille dans d'autres restaurants, que je terminais à minuit et qu'on me disait « Oui, mais t'es passionnée. » Oui, mais je suis fatiguée. Donc, la passion, c'est bien, mais elle ne fait pas tout. Et moi, quand quelqu'un me dit « Oui, t'es passionnée par ton métier », je trouve ça aussi un petit peu triste pour la personne qui, elle, n'a aucune flamme pour ce qu'elle fait. Et c'est important d'aimer ce qu'on fait dans la vie. Alors moi, déjà, j'ai travaillé dans des maisons différentes, des maisons dans lesquelles on faisait des coupures, dans des maisons dans lesquelles on faisait des continues. Et dans une maison en particulier, je pense à Julien Dubouet, chez qui on faisait des coupures, mais qui aménageait le temps de travail pour toujours avoir un équilibre avec la vie privée et la vie professionnelle. Il avait une salle de repos avec des canapés, une télé, des jeux vidéo. Souvent, il avait sa petite fille qui avait, je ne peux pas dire de bêtises, mais 2-3 ans à l'époque, qui était tout le temps là dans la salle du restaurant, qui jouait avec ses puzzles dans l'escalier, même quand il y avait les clients. Et son équilibre de vie entre la vie privée et la vie professionnelle, je me suis toujours dit que c'était ce que je voulais reproduire, moi, ici, au restaurant. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'être épanouie dans ces deux vies en même temps, puisque le métier de restaurateur nous prend beaucoup, beaucoup de temps. Parce qu'elle nous prend le temps de production le matin, donc avant le déjeuner, le temps de production le soir avant le dîner, et les gens ne réalisent pas ou commencent à réaliser qu'un restaurant, c'est une équipe pour un service du midi et un service du soir. C'est beaucoup de temps et c'est hyper important de prendre soin de ses équipes. Et même pour soi, en ouvrant le restaurant, c'est hyper important de faire la bonne balance entre les deux. Aujourd'hui, moi, dans mon restaurant, j'essaye de faire au maximum. Pour ça, il faut qu'on puisse recruter plus, déjà. Donc, on a mis en place 3 jours de repos. Donc, le restaurant est fermé 2 jours par semaine et chacun a 1 jour de repos en plus. Mais ça reste quand même pas facile parce que ça fait 4 jours intenses qui nous prennent du matin au soir.
4 jours de travail, 3 jours de repos, soit un de plus que d'ordinaire. Chez Dante, Rebecca a à cœur de prendre soin du bien-être de son équipe. Mais elle confie également avoir du mal aujourd'hui à recruter. Elle explique que les candidats et candidates se font de plus en plus rares dans ce métier décrit comme fatigant et pas assez rémunérateur. Elle rappelle que la masse salariale coûte environ le tiers du chiffre d'affaires d'un restaurant et que dans ce contexte, il est impossible de pouvoir doubler le personnel pour compter sur une équipe du midi et une autre du soir, mais également difficilement envisageable d'augmenter considérablement les salaires.
Pour que les restaurants et que les équipes vivent sainement, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, mais je pense qu'on a besoin d'aide et d'aide de l'État, de réduire nos charges pour qu'on puisse soit mieux payer, pour payer vraiment les vraies heures qui sont travaillées, ou alors pour doubler les équipes, pour pouvoir faire de la continue et pas de la coupure. On ne peut pas le faire seul. Aujourd'hui, un ratio personnel dans un restaurant, ça peut monter jusqu'à 35 à 42% du chiffre d'affaires. C'est énorme, et ça, c'est en ayant une équipe. Donc soit on ouvre que le midi ou que le soir, On divise notre chiffre d'affaires en gardant la même charge personnelle. Soit on multiplie notre équipe, mais ça veut dire qu'on multiplie 38 ou 42 par 2. Ça veut dire qu'il nous reste plus d'argent pour payer les fournisseurs, pour payer les loyers, pour payer les charges. Donc il y a un problème quelque part. C'est sûr qu'il faut le régler. Je pense pas que la solution soit de dire on ferme les restaurants plus tôt, parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est même ce qu'on fait chez nous. Le dernier service, c'est 21h45. Mais ça veut dire que demain, on va se retrouver avec un pari, avec les restaurants fermés à 22h. C'est pas le pari qu'on connaît, c'est pas le pari qu'on veut, c'est pas le pari qui fait rêver dans le monde. Donc je pense vraiment que c'est un sujet qui est hyper important. On peut pas dire non plus on ferme les restaurants le midi, parce que le midi, il faut qu'on ait une autre offre que la sandwicherie. Et puis on peut pas imposer aux restaurateurs de diviser leur chiffre d'affaires par un tiers ou par deux en fonction de ce qu'ils font le midi. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. C'est hyper important de prendre soin de soi, de ses équipes. Et pour ça, il faut qu'on puisse leur donner du temps pour qu'ils aient leur vie, pour qu'ils aient leur famille. Et donc, il nous faut les moyens de donner ce temps-là et les moyens, selon moi, ça voudrait dire diminuer les charges.
En France, les restaurants sont taxés comme n'importe quelle entreprise. Pourtant, l'amplitude horaire du secteur de la restauration est deux fois plus large. Rebecca déplore cette situation.
On ne peut pas attendre d'un restaurant, d'une entreprise qui a une amplitude horaire deux fois plus large qu'une entreprise classique, de les taxer de la même façon qu'une entreprise qui a une amplitude horaire deux fois moins large. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. On nous parle souvent d'un métier de passion. C'est bien, c'est vrai, on est passionné. Et je pense qu'on devrait être tous, quelque part, être un peu passionné par son métier pour être heureux de le faire. Mais la passion, c'est pas une excuse pour travailler deux fois plus, s'épuiser, ne pas gagner forcément plus. La passion, c'est ce qui va nous donner envie d'avancer, nous donner envie de faire mieux, être heureux de faire notre travail, se lever, être heureux, être épanoui. Mais la passion ne veut pas dire que t'as pas envie d'avoir une famille, que t'as pas envie d'avoir une soirée avec des potes, que t'as pas envie d'avoir une carrière professionnelle. L'un ne va pas sans l'autre, tu vois. La passion, elle fait pas de tampon à tout le reste des éléments de la vie, en fait. La passion, elle est belle, elle est géniale, mais il faut l'entretenir.
Cet avis, c'est aussi celui de Camille Guillot du restaurant Candide, que vous avez déjà entendu dans l'épisode 2 de cette série. Camille raconte l'impasse dans laquelle son compagnon Alessandro Candido et elle-même se trouvent en tant qu'employeur. L'envie de revaloriser certains salaires, mais l'impossibilité de le faire.
Parmi les piliers pour parler de bien-être au travail, il y a également le sujet de la rémunération. Donc nous, on est un petit peu pieds et mains liés parce que on a fait ce pari du nouveau modèle. On a un modèle économique, on se rend compte après un an d'activité complètement résolue que notre modèle, il est pas à l'équilibre, qu'on a une masse salariale trop importante. Nous, pour le coup, c'est un sujet sur lequel on a aujourd'hui zéro marge de manœuvre parce que le pari, c'était d'essayer. Bon, là, on a vu pendant un an, on essaye. C'est un petit peu compliqué. Donc, il va falloir qu'on active d'autres leviers différemment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le constat actuel, on va pas pouvoir augmenter, même si on pense que ça mériterait parfois des revalorisations de salaire. Malheureusement, on est en capacité de le faire. Donc ça, c'est une grosse problématique pour nous. Et ça s'inscrit de façon beaucoup plus globale sur le secteur.
Dans le secteur, cette histoire de charge salariale trop élevée commence à être sérieusement pointée du doigt. Il y a quelques mois, le GNI, Groupement National des Indépendants Hôtellerie et Restauration, a fait part d'une demande faite au gouvernement concernant les secteurs d'activité dits à forte intensité de main-d'œuvre, celle d'adapter les charges salariales au chiffre d'affaires, au même titre qu'on paye bien nos impôts en fonction de nos revenus.
On sait que le GNI, qui est donc un syndicat d'hôteliers et de restaurateurs indépendants, au mois de juin, eux, ils nous ont envoyé un mail pour nous parler d'un projet de loi qui est déposé auprès du gouvernement, selon lequel ils demandaient à ce que l'hôtellerie-restauration, qui est donc qualifiée comme un secteur d'activité à forte intensité de main-d'œuvre, c'est-à-dire un besoin relativement important de masse salariale sur le chiffre d'affaires qui est généré, et donc que pour ce secteur d'activité-là, ils demandaient à ce que les charges sociales soient du coup proportionnelles à ce ratio. Ce qui paraît pas si déconnant, alors j'avoue, moi je suis pas du tout calée en économie. Je maîtrise pas du tout le sujet dans sa globalité, mais c'est vrai qu'à notre échelle à nous, ça nous paraît pas si déconnant que ça, et au final ça reviendrait un petit peu comme les impôts des particuliers, où on contribue à la hauteur de ce qu'on est capable de contribuer, et puis là ça serait du coup assez juste, de mon point de vue encore une fois, par rapport à d'autres entreprises qui génèrent beaucoup de chiffres avec très peu de masse salariale, parce que du coup, bah, nous, on rémunère des gens, on crée de l'emploi, on essaye de former les gens sur des compétences. Et c'est vrai qu'encore une fois, il y a tellement de typologies et de modèles de restauration différentes que bah, d'un établissement à l'autre, ça n'a rien à voir, quoi. Donc ça permettrait de peut-être d'inciter les acteurs professionnels du secteur à aller plutôt dans cette direction de, bah, de recruter, former, avoir des gens compétents. Et donc ça, c'est vrai que nous, on pense que ça faciliterait parce que ça permettrait peut-être de revaloriser les salaires, on serait moins bloqué. Et aujourd'hui, pour nous, il y a un vrai sujet sur la valorisation de ces postes.
Camille Guillot souligne par ailleurs les différences de profils recherchés dans le secteur. Chez Candide, restaurant de cuisine du jour inventive et bistronomique, le curseur est mis sur un sourcing de produits de qualité. Chez Candide, donc, serveurs et serveuses doivent être en mesure de parler de ce qu'il y a dans l'assiette avec précision. Camille Guillot estime que cette expertise devrait pouvoir être valorisée et prise en compte dans une meilleure rémunération.
C'est vrai que d'un type de restauration à un autre, on se rend compte que ça ne demande pas du tout les mêmes profils. Enfin, il y a des établissements où c'est vrai qu'on peut avoir des équipes qui font un travail très simple de service au sens très premier du terme, c'est-à-dire apporter des assiettes débarrassées, nettoyées, etc. Et ça se résout à ça avec des cartes fixes, des produits que tout le monde connaît, donc il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances particulières, etc. Et puis pour prendre l'extrême opposé, on a aussi d'autres types de restauration où ça demande de, bah, d'avoir une vraie connaissance sur le vin, sur les produits qui sont servis. Il y a un vrai travail de sourcing qui est régulier aussi pour bah pareil pour rester concurrentiel, pour bah avoir une carte qui est en adéquation avec la saison, et ça demande pas du tout les mêmes efforts en fait. Et puis il y a aussi un peu cet aspect que moi je trouve qu'on met trop de côté en France et qui est ni assez mis en avant ni assez valorisé, c'est tout ce qui touche à l'hospitalité en fait, cette sensibilité à l'accueil, cette sensibilité à faire passer un moment aux gens, un bon moment, à comprendre dans quel état d'esprit ils sont, ce qu'ils ont envie de passer comme moment avec nous. Et ça, c'est pas donné à tout le monde non plus, quoi. Ça demande vraiment une capacité, on va dire, d'intelligence émotionnelle qui, moi, je pense, mériterait d'être valorisée, quoi.
Pour Rebecca Beaufour, les mentalités dans le métier sont en train d'évoluer, ce qui est une bonne chose. En effet, un nombre grandissant de travailleurs et travailleuses du secteur ont désormais à cœur de ne pas perdre leur vie à la gagner. Mais la rencontre entre cette jeune génération consciente de ce dont elle ne veut plus et un secteur qui n'est pas encore capable d'opérer sa mue n'est pas possible en l'état des choses.
Notre métier, c'est un vieux métier et donc forcément, alors une vieille mentalité, c'est mal tourné, c'est pas joliment dit, mais ça a une mentalité qui commence à évoluer là depuis la génération qui est arrivée après moi, mais qui a toujours dit « c'est comme ça, on l'a toujours fait, je l'ai fait, donc tu le feras ». De la même façon que quand quelqu'un se fait mal en cuisine, la réponse c'est dans la tête et c'est pas grave. Ok, mais non, on a le droit d'être fatigué, on a le droit de se faire mal et on a le droit de prendre soin de notre métier et de prendre soin des gens.
Depuis le Covid, Rebecca Beaufour a observé que ce fossé se creuse de plus en plus.
Je veux vachement peser mes mots aussi par rapport à ça. La nouvelle génération, que ce soit tout métier confondu, ne veut plus travailler autant que la génération d'avant. Je pense que le Covid a vachement déclenché ça aussi. Je pense que la nouvelle mentalité est très porteuse de ça aussi. Et moi, je pense qu'il faut faire attention à notre rythme. Le problème, c'est qu'on reçoit des profils qui veulent sortir du système de coupure, qui veulent faire de la continue. Et pour un restaurant qui est ouvert midi et soir, c'est pas possible. Et puis, il faut que les équipes travaillent ensemble. On n'est pas un hôtel, on est avec une équipe qui arrive le matin et une équipe le soir. Donc, il faut un équilibre entre les deux. Et je pense qu'il faut que les jeunes soient aussi conscients de la réalité du métier. Et de se dire qu'ils vont aussi travailler matin et soir. Alors qu'il faut que ce soit un juste milieu, mais c'est quand même la réalité du métier. On ne peut pas faire ce métier et s'attendre à faire des horaires de bureau. Ou sinon, il faut changer de métier, ou il faut avoir beaucoup de chance pour trouver un restaurant qui fait ça, ou il faut travailler en hôtellerie. Sinon, ce n'est pas possible.
Pour Rebecca Beaufour, le métier doit évoluer et un équilibre doit encore être trouvé entre ses nouvelles aspirations et un modèle économique à transformer.
Il faut être conscient de la réalité de notre métier, qu'on va manger dans le même restaurant le midi et le soir, que c'est les mêmes équipes qu'il y a derrière et que donc, Il faut être conscient de la réalité du métier. Il faut retrouver l'équilibre entre les équipes et les employeurs. Il faut trouver une nouvelle façon de faire. C'est tout nouveau, tout ça. On ne sait pas encore faire. On va le trouver. Hein. Pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé, donc il faut encore chercher le bon équilibre. Mais ça va venir.
Ailleurs en France, certains restaurateurs, également conscients de la difficulté à recruter, ont choisi, lorsqu'ils le pouvaient, d'augmenter leur salaire afin de se rendre plus attractifs. C'est le cas de Louis Privat, homme d'affaires à la tête des Grands Buffets à Narbonne. Pour comprendre sa démarche, je lui ai passé un coup de téléphone.
Je suis Louis Privat, le fondateur des Grands Buffets, créé en 1989, donc ça fait maintenant 34 ans.
J'ai d'abord demandé à Louis Privat de nous expliquer le concept des Grands Buffets.
Alors, les Grands Buffets ont été le premier restaurant en France à proposer une formule de buffet à volonté. Ça paraît un peu étonnant, mais nous avons été le premier à une époque où n'existait que les formules de buffet à volonté des hôtels-clubs, du club méditerranéen, mais pas un restaurant indépendant. On avait réussi à s'imposer, ou du moins à imposer cette formule et trouver un modèle économique. Nous l'avons lancé en 1989.
Louis Privat m'a ensuite raconté comment il s'y est pris pour augmenter ses équipes.
Donc quand il a été fait le constat qu'il y avait au plan du secteur de la restauration un problème généralisé qui était celui du recrutement, en d'autres termes, la filière n'attirait plus les nouveaux talents, les envies de jeunes collaborateurs à rejoindre cette filière-là, parce que il y avait en réalité une réelle pénibilité, et cette pénibilité n'était pas franchement compensé par une rémunération. Il était difficile d'expliquer à un jeune de 18 ans de s'engager dans la restauration, de sacrifier ses soirées, de sacrifier ses week-ends, ses vacances d'été pour un salaire qui pouvait avoisiner le SMIC. Donc, en janvier dernier, j'ai pris la décision de faire évoluer les salaires d'une façon très très significative pour retrouver en fait un flux entrant de candidatures qui s'était tari chez nous comme d'autres. Donc nous avons proposé à nos collaborateurs, ça s'est fait travailler avec nos représentants du personnel, on a proposé une augmentation de 30% du pouvoir d'achat. On l'a mis en place par le biais d'un contrat d'intéressement. Bien sûr, nos collaborateurs se sont exprimés sur le sujet. Est-ce qu'ils préféraient une augmentation de salaire et de charges, ce qui aurait correspondu globalement à 15% d'augmentation, puisque 15% de salaire, il faut y adosser 15% de charges, l'ensemble faisant 30%. Nos collaborateurs ont préféré que soit mise en œuvre un contrat d'intéressement qui permettait une augmentation moyenne de 30% du pouvoir d'achat de l'ensemble de nos collaborateurs. Voilà quelle a été la première décision. Mais évidemment, ce type d'augmentation ne peut pas se prendre sur la marge d'un restaurant. C'est absolument impossible. Donc le principe reposait un petit peu sur l'analyse que j'avais pu faire sur le commerce équitable, où on voit que le public adhère totalement au principe de payer plus cher un produit dès l'instant où la maltraitance économique du producteur de café du Nicaragua sera éliminée. Donc mieux payer un producteur de café au Nicaragua implique de payer chez nous plus cher le produit. Eh bien, je me suis inspiré de ce principe-là pour augmenter notre prestation, le prix de notre prestation, le prix public de notre menu, qui est passé donc qui a été augmenté de 5 euros. Il est passé à ce moment-là de 42 euros à 47 euros pour pouvoir procéder à une augmentation qui avait été totalement corrélée de 30%, et le public a très très bien réagi à cette initiative, puisque la presse à cette époque-là a questionné les clients en leur demandant écoutez, le restaurant s'apprête à augmenter de 5 euros le prix du menu pour mieux payer ses salariés. Tous les clients interrogés ont validé ce principe-là. Nous avons écrit à l'ensemble de nos clients qui avaient réservé pour leur dire « Vous avez réservé à un tarif de 42 euros. Lorsque vous viendrez, le tarif sera à 47 euros. Il vous est possible, bien sûr, d'annuler, mais on voudrait quand même vous expliquer les motivations et on expliquait que cette hausse était directement destinée à payer très correctement nos collaborateurs. » Alors, aujourd'hui, on peut faire un bilan. Le bilan, c'est que nous avons eu, du mois de janvier au mois de juin, la date où nous avons fait un point et un bilan, 1500 demandes de collaborateurs nouveaux qui souhaitaient intégrer les équipes des grands buffets, c'est dire que les salaires étaient devenus attractifs, bien qu'il fût avant au-dessus des grilles conseillées par l'industrie hôtelière, mais on était déjà au-dessus. Et là, un salaire pour quelqu'un qui rentre chez nous, et qui n'est pas d'ailleurs dans les plus pénibles, je pense aux ceux qui sont en journée continue, par exemple. Ils vont rentrer, ils seront leur horaire de travail sera à 8h jusqu'à 16h30 avec une coupure repas, le repas étant pris dans l'entreprise. Le salaire maintenant de recrutement avoisine les 2000 euros net.
Au Grand Buffet, c'est un modèle économique installé et la participation d'une clientèle volontaire qui a permis d'enclencher l'augmentation des salaires. Mais en l'état, la plupart des restaurants, en particulier lorsqu'ils sont jeunes et travaillent à petite échelle, comme c'est le cas de Dante et de Candide, dont on a parlé plus tôt, disposent d'une marge de manœuvre plus limitée. Chez Aponem, restaurant étoilé situé à Vaillant, dans l'Hérault, les restauratrices Amélie Darvas et Gabi Benicio ont toutes les deux fait le choix radical de rétribuer toute l'équipe de la même manière. Plongeur, chef, sous-chef, commis, tout le monde touche le même salaire chez Aponem. Une décision qui s'apparente ici à un choix politique, celui de ne pas faire de hiérarchie entre les différents postes du restaurant. Voilà en creux différentes façons d'envisager le resto de demain. Un lieu d'engagement, laboratoire politique de nouvelles manières d'exercer un métier, un secteur professionnel aux spécificités davantage reconnues par les pouvoirs publics, un corps de métier à nouveau attractif au sein duquel on s'épanouit. Car disons-le, il y a une urgence à soigner la fonction nourricière dans notre société. Il y a une responsabilité politique, sociale et sanitaire à prendre soin de ce secteur professionnel. Dans quel métier a-t-on à ce point la possibilité d'influer sur l'humeur et la santé des gens, les remplir de nourriture et les emplir de joie? Un client qui entre dans un restaurant n'est déjà plus le même en sortant. Un repas englouti est un repas qui nous suit pendant plusieurs heures, un repas qui fait partie de nous. Quelle autre profession peut se targuer d'accompagner à ce point son public, de le suivre dans le creux de son ventre pendant une journée? Alors n'oublions pas ce que peut être le resto de demain et surtout ce qu'il peut déjà être aujourd'hui. Un lieu plus humble dans lequel la tête de proue n'est plus le chef mais une brigade entière, un lieu qui n'a pas malmené des humains pour en contenter d'autres, un lieu de respect, de rencontre et de transmission entre des cuistots et cuistottes inspirés et une clientèle disposée à recevoir. Si vous aimez Bouffon et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho, Mathilde Jonin et Diane Le Sueur. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon.